Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la seconde partie du magazine Okapi Service, micro-entreprises et commerces familiaux, comment préparer la relève. C'est le deuxième sujet que nous abordons dans cette émission. Nous en parlons avec Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur. Monsieur Takizala, bonjour.
Je remercie Madame Justine. Je remercie aussi l'équipe de l'émission Okapi Service. Bon anniversaire.
Merci.
C'est pas tous les jours qu'on fête 24 ans.
Merci beaucoup.
La radio de la paix et des développements.
Merci beaucoup. Vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, composez les 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook. Benjamin Moudoumbi réalise cette émission. Sylvain Baouéré est à la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Meshak Mboutamountou assure la diffusion sur nos plateformes numériques et moi je suis Jocelyne Moussa Opondé.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Okapi. En RDC, de nombreuses familles ou couples gèrent un petit commerce ou une micro-entreprise. Ces activités sont vitales pour leur subsistance et celle de leurs enfants. Mais souvent, après le départ ou le décès du fondateur, l'entreprise ne survit pas ou peine à se maintenir. Pourquoi la relève est-elle si difficile? Quelles solutions existent pour assurer la continuité? Nous sommes avec Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur. Monsieur Takizala, quand on parle de micro-entreprise ou de commerce familiaux en RDC, de quoi parle-t-on concrètement?
Vous savez, la petite entreprise est la première force. J'aime bien, la France a un slogan qu'on appelle le micro-entreprise est la première entreprise de la France. Parce que en République démocratique du Congo, 66 ans d'Iran, on a cru que l'entreprise qu'on peut considérer, ça devait être uniquement la gigantesque entreprise.
Voilà.
Et pour que la SNEL puisse être une entreprise importante, il doit avoir des consommateurs professionnels, les petites moyennes entreprises et les micro-entreprises. Et normalement, c'est ça le socle aussi d'économie.
Je disais attractive. Voilà, parce que déjà, même dans la mémoire collective, on estime que qu'on a un petit boulot, comme on le dit, c'est pas vraiment un travail. Quand on est dans une micro-entreprise, on travaille pas, on fait quelque chose en attendant d'avoir un emploi.
Malheureusement, Madame Justine, vous savez que la langue que nous parlons tous, qui est officielle, la langue française dit, il n'y a pas de son métier, il y a que des sortes d'individus. Ça veut dire que la petite moyenne entreprise en République démocratique du Congo, comme les métiers, nous sous-estimons et nous sous-estimons aussi. Et c'est pour ça que vous voyez que l'informel est resté maintenant le dragon de la République démocratique du Congo. Mais là, moi j'appelle ça dans ma façon de voir philosophiquement parlant, le syndrome de Papa Wemba et de Luambo Makiadi. Ça veut dire que l'absence de leader fait que la continuité pose problème. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, depuis les années 72, en commençant par ce qu'on appelle le phénomène des acquéreurs, a fait que la gérance d'une entreprise dépend d'un individu. Au lieu que ça soit un système, c'est-à-dire il faudrait créer un écosystème. Et il faut recruter des bonnes personnes, il faut une vision bien établie, il faut une comptabilité, parce que l'entreprise, c'est pas la taille. Chaque entreprise est à la même fonctionnalité, ça fonctionne pareil, vous avez besoin de trésorerie, vous avez besoin de clients, vous avez besoin de fonds de roulement, vous avez besoin de local, vous avez besoin... Donc l'entreprise fonctionne pareil. Malheureusement, et puis le Mokati du Congo, qu'est-ce qui se passe? La complaisance, par exemple, dans les ressources humaines. Lorsque je suis patron, c'est lui qui j'y vais mettre... comme collaborateur, parce que c'est une membre de famille, même il est pas compétent, automatiquement, on le met dans l'entreprise. Là, automatiquement, vous allez pas réussir. Et si vous êtes aussi des enfants, quand le papa a entrepreneur, logiquement, on devait avoir celui qui est initié pour remplacer. Aujourd'hui, quand on prenait le pays comme la France, les entreprises familiales, il y a des entreprises, prenez par exemple, l'entreprise familiale Michelin. Michelin a presque un siècle et 35 ans, donc 135 ans d'existence. Mais vous allez voir que à la tête de Michelin, on n'est pas obligé d'avoir
un membre de famille.
Il faut quand même prendre un actionnaire, un manager. Aujourd'hui, le problème de gouvernance d'entreprise pose problème. Ce que nous voyons dans les entreprises familiales, c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises publiques, les entreprises familiales étatiques. Ça veut dire que on arrive au pouvoir, on va prendre ceux qui ont milité avec nous au lieu de prendre les managers d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance d'entreprise en République du Congo. Beaucoup de complaisance. Il n'y a pas quand même cette rationalité. Aujourd'hui, vous prenez Okapi. Okapi, c'est ceux qui travaillent ici. Chacun mérite d'être ici. On sélectionne les gens, on donne des objectifs, on donne un cahier des charges, ainsi de suite. C'est pour ça, 24 ans d'Iran, l'entreprise continue toujours
malgré les départs, malgré le départ.
Mais cette vision d'Okapi reste toujours là et ça sert le développement, ça sert la communication de la paix en démocratie du Congo. Mais ce qui manque du côté des entreprises familiales en démocratie du Congo, c'est-à-dire que les entreprises familiales, on a connu des histoires des entreprises familiales. La famille Mbemba, aujourd'hui, on n'en parle plus.
La famille Dokolo.
Et pourtant, c'était vraiment le fleuron de l'industrie en République démocratique du Congo, avec tous les secteurs de la vie. La famille Kisombe, aujourd'hui, on voit plus. Et pourtant, nous importons l'ameublement. On avait cette famille qui était vraiment le fleuron de l'économie de la République démocratique du Congo. La famille Ngunza Bonanza. Aujourd'hui, quand vous prenez 8e Miri, 9e Miri, c'était la famille Ngunza Bonanza. La famille Kindwelu. Aujourd'hui, vous voyez que toutes ces familles-là, le relève a posé problème. Lorsque celui qui était le visionnaire affaibli, automatiquement, on voit
ça
pire.
Disparaît.
On voit pire. Donc, en fait, ça continue, ce syndrome de Papa Wemba.
Mais pourquoi ça marche ailleurs et pourquoi pas ici ailleurs? Vous avez parlé de Michelin avec un exemple sans...
Oui, Michelin, Wendel, il y a beaucoup de familles qui restent aujourd'hui. La famille Pinochet.
Mais pourquoi ça marche à Neken? Il y en a beaucoup. Mais pourquoi ça marche ailleurs et pas chez nous?
Il y a un problème culturel. On a conçu un peu l'industrie de la facilité. Les enfants comprennent, pensent que si le papa a créé un compte de fait, on ne fera pas des efforts. Beaucoup de familles entrepreneuriales...
Mais les enfants ailleurs fournissent quand même ces efforts.
Oui, mais parce qu'ils sont initiés. Parce qu'ils sont initiés, ils sont encadrés. Et il y a aussi un écosystème étatique. Parce qu'une entreprise qui soit privée, familiale ou étatique, normalement c'est une entreprise congolaise. Donc du côté de l'État, on doit quand même soutenir, accompagner. La grande difficulté de la démocratie du Congo en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que les entreprises qui sont fondées par des Congolais ne sont pas considérées sur les politiques publiques de la démocratie du Congo. C'est-à-dire que c'est ça la grande difficulté. Quand vous prenez la famille, par exemple, aujourd'hui, on a un problème de transport dans la ville de Kinshasa, la famille MB, Fula Fula. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose.
NB, oui.
MB. Ouais. La famille Louza, aujourd'hui, on importe la nourriture. Louza, sirop. Njili, la famille Sacramento, Kansebou, ainsi de suite. Cette famille, aujourd'hui, toutes ces familles-là, on ne voit plus grand-chose. Donc, ailleurs, il y a quoi? Il y a déjà un écosystème étatique, et un écosystème bancaire, un écosystème contractuel, et un écosystème fiscal qui favorise aussi ces familles pour qu'on puisse perdre. Et même les ressources humaines. C'est-à-dire que le recrutement et puis le Mokati du Congo pose problème, madame. Même au niveau de l'État. Prenons Office national des demandeurs d'emploi, qu'on appelle ONEM, qui devait être un vivier essentiel pour permettre aux entreprises familiales de recruter. Malheureusement, c'est par des recommandations à la démocratie du Congo. Comme le chômage est des masses, ça veut dire que lorsque j'ai créé l'entreprise, moi, Mathieu Takizala, je dois chercher d'abord le sien. Ça veut dire
on n'a pas parlé de la famille Takizala aussi.
Oui, la famille Takizala, c'est ça aussi. C'est que, en fait, c'est le syndrome qui continue. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ça veut dire que le pays doit quand même rectifier beaucoup de choses. Et si on ne rectifie pas le capitalisme, vous savez, quand on parle de l'entreprise dans notre pays, ça me fait un peu mal au cœur. Ça veut dire que nous parlons beaucoup plus de l'investissement étranger, mais pas l'investissement local. Et or que toutes ces familles-là, si on perdurait ça jusqu'à aujourd'hui, ce pays devait être une force économique de la sous-région.
Mais quand vous parlez du problème qui est culturel, est-ce que c'est pas dans notre état d'esprit? Est-ce que les enfants de ces initiateurs, de ces promoteurs-là, ne se positionnent pas que seulement en tant que jouisseurs? Est-ce qu'ils prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer au sein de entreprises de leurs parents?
L'industrie de la facilité, ça veut dire que quand vous partez dans d'autres cultures, vous allez voir que l'enfant qui va remplacer par exemple le papa comme dirigeant, il va commencer à bas d'échelle. Si vous êtes dans la mécanique, le petit va commencer comme un mécanicien, même il a fait de l'université pour comprendre un peu l'écosystème de l'entreprise familiale, comment ça fonctionne. Mais malheureusement chez nous, comme comme je suis le fils de quelqu'un, vous voyez, même dans la politique, c'est ce qui se passe.
Le fils du boss.
Oui, même dans la politique, en démocratie du Congo, c'est ce qui se passe en Afrique francophone aujourd'hui. C'est-à-dire que le fiston, au lieu que ça commence en bas, vous, comme vous êtes en première position, vous l'amenez directement. Il va pas apprendre. Même vous lui donnez une poste, il fera rien. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, Bolloré, qui est aujourd'hui l'Empire Canal+. Vous allez voir que les fils Bolloré, ils ont des entreprises dans tout. Lui-même d'abord, il a été initié par son père. Mais les enfants Bolloré, c'est pas tous les enfants Bolloré qui sont dans la gestion
donc
actif.
Les responsabilités partagées.
Les responsabilités sont partagées.
Ici, les parents n'initient pas leurs enfants.
Il y a un problème d'initiation.
Ils ne les encadrent pas.
Il y a vraiment un problème sérieux d'initiation. Moi, je donnais par exemple mon cas. J'ai 3 garçons. Le dernier a 20 ans. Le dernier, je trouve que peut-être on peut l'initier à être dans le secteur libéral, mais les autres non. Ça ne sert à rien qu'on force. Et celui qu'on peut initier, peut-être, c'est celui-là qui peut prétendre à être un jour un dirigeant d'entreprise. Parce que être un dirigeant d'entreprise, c'est pas la facilité. C'est quand même un travail. Tout le monde ne peut pas être un dirigeant d'entreprise, Madame Jocelyne. C'est ce que nous oublions. Et en République démocratique du Congo, nous pensons que parce que le papa est ministre et que d'office vous devenirez ministre. Parce que le papa est entrepreneur.
Moi,
dans Koyazan Koïté. Moi, dans Koï, ou à Komaran Koï, Azali, ou Azali initié. Ça veut dire que fou, ou yéba, n'dengeni nakata jengle, mboloko atamboloka, lion batignon sona batamboloka. Mais parce que ce que yé kaka na mangungu ya, moi, dans Koï, et à moi, pas si. Est-ce que dans, prenons par exemple dans la politique française, quel est le fils Mitterrand qui est devenu après Mitterrand.
Mais ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver, mais il faut que ça soit initié. Voilà. Il faut que ça soit initié, il faut que la personne mérite. Si la personne, le président Giscard, Louis Giscard, qui a fait la politique, qui est devenu même président de commission de finances, il méritait, et même maire d'une petite ville à côté de Clermont-Ferrand, ça veut dire qu'il faut que l'enfant mérite. Le vrai problème de la société congolaise, on se décroche vite. Lorsqu'il y a un qui réussit, les autres ne font pas l'effort.
On va y revenir, Monsieur Takizala. Le temps pour nous de prendre nos auditeurs en ligne. Patti Maimba Chulembo est à Bandundouville. On espère que cette fois-ci, la liaison sera claire et que vous êtes dans une zone qui est assez couverte par le réseau. Patti Maimba, on vous écoute.
Merci, Madame Moussaou. Bonjour à notre invité. Nous vous saluons pour tout cela. En tout cas, je suis d'accord, on est d'accord avec l'invité sur la thématique, c'est ce qu'il fallait. Et nous aimons des notions comme ça. Vraiment, c'est à saluer. L'initiation doit commencer au niveau de la famille. Madame Moussa, je pense que vous m'écoutez.
On vous écoute, Monsieur Maïmba.
D'accord. Je suis content que je sois bien écouté.
Oui.
Vraiment, l'initiation doit commencer dans la famille. Et à quel âge? Dès le bas âge. On doit former l'enfant. Mais c'est ce qu'il tire là, qu'on a chez nous ici presque oublié. Vous trouvez quand papa est, par exemple, menuisier, ses enfants font autre chose, ils ne s'intéressent pas à ce que le papa fait. Et le papa lui-même n'a même pas cet amour-là d'initier ses propres enfants. Donc on ne devrait pas voir. Il y a même des... Comme l'invité parle de la continuité après le départ d'un parent ou d'un certain responsable, ce sont aussi les membres de famille, quelque part, qui viennent mettre du chaos, cher invité. Surtout notre système de banoko, les ngouaches, disons. Donc, quand ils viennent après la mort, c'est comme chez moi ici, il y a une maison de messieurs. Bon, vous les connaissez, je ne les citerai pas, l'ancien gouverneur de ma province ici. Il a laissé une maison ici. Je vous dis, jusqu'à ce que nous parlons ici, on n'a même pas ajouté une brique. Vous comprenez un peu ça? Donc après sa mort, quelqu'un qui avait un peu de moyens, mais les Ngouas sont venus, ils ont tout ravi. Et quand je vous parle, c'est cette maison, vous connaissez cet ancien gouverneur là-dedans, je parle
de
cette
maison. Mais on ne va pas citer des cas, enfin, on va pas cibler des personnes, on peut parler d'une manière générale, monsieur Patti.
Voilà. Donc c'est un problème de la famille aussi. Donc juste que les membres de famille, mère, toute la famille s'énerve. Ils viennent. Donc, c'est le partage en désordre. Et même les enfants du propriétaire ne seront pas considéré.
Merci, Patrick Maïmba. Merci beaucoup, on a compris. Merci, c'est la famille élargie qui pose aussi problème après le départ de, du fondateur ou de l'initiateur du projet. On va prendre Thomas Ungen qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Thomas.
Bonjour madame Justine, ainsi que bonjour à l'invité, ainsi qu'à à tous les auditeurs de la radio Okapi, et d'entrée déjà, joyeux anniversaire à notre radio.
Merci beaucoup.
Ainsi qu'à tous les auditeurs de la de cette chaîne-là. Mmh. D'entrée déjà, avant de poser mes quelques préoccupations, je pense, monsieur, madame Jocelyne, la relève des micro-entreprises et des commerces familiaux constitue en tout cas un enjeu majeur de continuité économique, mais également de la préservation du patrimoine familial. Et ce qui suppose que une préparation anticipée, ça doit éclairer une préparation anticipée, mais également la formation du successeur, sans oublier également la transmission des compétences et quelque part là également une organisation juridique et financière adaptée. Et face à ça, une bonne planification permettra d'assurer en tout cas la pérennité de l'activité tout en évitant les conflits et les ruptures à ce qui est de la gestion. Je crois que le prédécesseur a parlé également de ça. Après ça, je m'en vais directement aux questions que j'aimerais poser à l'invité. La première question que j'aimerais poser à notre invité, c'est quels sont en tout cas les principaux défis auxquels sont confrontés les micro-entreprises lors de la transmission. Ça, c'est la première question. Quels sont les défis que l'invité pourra nous donner quant à ça? La deuxième question, quelles sont en tout cas les meilleures pratiques pour faciliter la transmission intergénérationnelle dans les entreprises familiales? Ça, c'est la deuxième question que j'aimerais poser à l'invité. Et la troisième question, quelles sont en tout cas les compétences?
Ah, on a perdu notre invité, notre intervenant qui appelait de Kisangani, Thomas Ungeni, qui a quand même posé ces deux questions. Monsieur Takizala, il a parlé de défis hein, des micro-entreprises lors de la transmission, meilleures pratiques pour faciliter cette transmission entre générations.
Les entreprises familiaux congolaises ont un problème d'abord de cadre juridique, comme la personne venait le dire. Il y a aussi un problème d'une comptabilité saine. On n'arrive pas à séparer le bien de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est aussi une personne morale. Mm-hmm. C'est pas une personne physique. Ça peut être même avec une personne physique qui se mélange, mais c'est une entreprise. On doit comprendre le salaire d'un dirigeant, c'est autre chose. Les taxes, c'est autre chose. Le salaire des salariés, c'est autre chose. Les fournisseurs sont aussi les gens qui sont impliqués. Mais malheureusement, dans la culture congolaise, le patron, pour lui, il confond tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une séparation. Il y a aussi les épiphénomènes tels que les monoparentalités. Vous savez que chez nous, quand on l'appelle, on dit boss, tout ça, des expressions qui frôlent beaucoup plus l'indice de la facilité. Alors, c'est ce qui fait que vous allez voir que trois quarts du temps, la plupart des dirigeants d'entreprises familiales sont dans des cas de figure de monoparentalité. La polygamie est parmi des sources. Et quand ils passent, vous allez voir que les enfants du premier foyer et du deuxième foyer, il n'y a pas d'entente. Et automatiquement, il n'y a même pas une carte juridique. Le comptable n'existe pas, l'avocat n'existe pas. Le banquier, qui devait être quand même le boussole pour orienter les choses, malheureusement, il y a une confusion totale. Et puis, par exemple, si ce monsieur qui était le promoteur de l'entreprise avait aussi ses membres de famille, comme c'était un grand frère l'aîné, les autres n'ont pas réussi socialement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à départager un patrimoine qui a été construit pour la communauté économique de la Pyrénées-Mokati du Congo. C'est ça le grand défi de l'entreprise familiale à Pyrénées-Mokati du Congo. Ils cherchent, mais si il y a une succession, comment il faut ça se préparer? Une succession, on ne peut pas s'improviser pour être un successeur. Un successeur, c'est d'abord une gravité, c'est une charge. Il faut que la personne comprennent un peu l'écosystème qu'est l'entreprise, parce qu'entreprise aujourd'hui est évolutive, mm-hmm. l'écosystème que l'entreprise existe, ainsi de suite, la concurrence, le marché, et tenir compte à tous ces éléments. Et ces messieurs ne peuvent pas s'auto-proclamer successeurs.
Oui. Il faut avoir des compétences.
Il doit avoir des compétences. Il faut aussi que la masse salariale qui compose l'entreprise reconnaît à ces messieurs quand même qu'il a des capacités de faire la continuité. Et voilà, et de comprendre qu'aussi il y a d'autres partenaires, il n'y a pas que votre papa qui était...
Mais est-ce que c'est pas la tradition, j'allais dire, hein, nos us et coutumes qui sont aussi à la base, hein, parce que pour quelqu'un qui détient le pouvoir de la famille, qui a le monopole des décisions, est-ce qu'on peut se mettre face à cette personne et le contredire si jamais il décide...
Le vrai pouvoir en économie, on dit, division du travail, elle doit être administrativement approuvée, ça ne doit pas être des faits de paille
mais,
ou...
Mais face à un encore.
Oui, mais normalement, s'il y a un cadre juridique, oui. logiquement, le vrai problème, c'est quoi? Nous avons un vrai problème en démocratie du Congo de l'occupation des uns et les autres. Mmh. Et il y a des gens qui se décrochent vite socialement parce que le fisc d'avoir un aîné ou un petit frère qui est bien positionné économiquement, les autres ne font pas les efforts. Mmh. Et ça, ce sont des erreurs monumentales. Il faut que l'État cherche des voies et moyens, que les petites et moyennes entreprises familiaux qui sont en République démocratique du Congo soient quand même le vecteur de développement et de la paix en République démocratique du Congo. Mmh. Parce que la paix, c'est aussi le travail. La paix, c'est aussi avoir des entreprises congolaises qui réussissent. Parce qu'on essaie dans cette économie mondialisée, chaque État projette les entreprises. Nous cherchons à chaque fois, l'État cherche par exemple les emprunts obligataires, ainsi de suite, mais qui peut mettre ce genre de fonds? Cette classe moyenne congolaise, si on le gère complètement. Normalement, le métier de comptable est très, très important, madame, hein, pour la gestion d'entreprise. Malheureusement, vous savez, la planification financière, le Congolais, on est beaucoup plus consommatrice. Mmh. Hein, on ne parle pas beaucoup comment on doit créer des recherches en démocratie du Congo. Mmh. C'est ça le vrai problème. Cette culture doit vraiment quitter la démocratie du Congo. On cherche beaucoup plus à partager. Vous savez, à chaque fois, on dit ici, budget, ainsi de suite, mais sans entreprise familiale, comment on peut créer le budget solvable de la démocratie du Congo? Ça serait extrêmement difficile, madame. Mmh. Jocelyne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'on ne devient pas parce que j'ai fondé une entreprise que d'office, je serai le dirigeant de l'entreprise. Ouais. Vous pouvez être initiateur, mais pas avec l'étoffe d'être le manager.
Mmh. Parce il faut ouvrir les actions,
voilà.
peut-être
Il faut. Prenons par exemple Zuckerberg. Zuckerberg qui réussit aujourd'hui, mais est-ce que c'est lui qui gère tous les départements de Facebook? Non.
Il détient quelque part.
Et même la participation, la participation de Zuckerberg ou d'Elon Musk est faible. Mmh. Les entreprises familiales de la République démocratique du Congo pensent garder tout le capital de 100%. Mmh. Même vous manquez ou le finance, ou l'expertise. C'est ça aussi le nerf de la guerre. Ça veut dire que même les entreprises de portefeuille, ça veut dire que l'État, il a 99 entreprises. 99 entreprises de portefeuille. Mais ces 99 entreprises de portefeuille, l'État garde la capitalisation des 100%. Non! L'État doit céder d'autre part pour que ces entreprises deviennent compétitive. C'est aussi le problème dans les entreprises familiales.
Oui.
Vous allez voir que vous avez pas un ingénieur dans la famille, vous avez pas un financier dans la famille, vous avez pas donc
mais il s'improvise.
Vous improvisez. Or, logiquement, céder même 5% à l'ingénieur, l'ingénieur va donner son intelligence, ainsi de suite. Même vous gardez 40 ou 30%, il suffit que l'entreprise soit quand même rationnelle. Vous allez voir que trois quarts de ces entreprises, il n'y a pas l'audit. Non, mais on doit auditer. On doit évaluer à chaque fois. L'autre successeur est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé quoi? Quel est l'actif que nous avons? Aujourd'hui, la plupart de ces entreprises est dans le passif. L'actif est faible. C'est ça le vrai problème.
On a peut-être peur des coups bas, des gens
qui... Non, mais lorsqu'il y a un cadre juridique, madame, il faut suivre quand même ce qui marche. Vous allez voir que même au Nigeria, on parle beaucoup plus de Tony Numelo, on parle beaucoup plus de Dangote, mais ces entreprises familiaux, vous allez voir qu'ils ont des alliés. C'est-à-dire qu'il faut chercher des alliés. Si vous ne cherchez pas des alliés, comment voulez-vous que l'entreprise avance? Aujourd'hui, vive à la musique. Si ça fonctionnait comme une entreprise, parce que le Congolais se réfère à ça, mais toutes les ressources humaines que Papa Wemba avait est toujours vivant. Tous ces artistes sont vivants. Mm-hmm. Mais pourquoi l'orchestre ne continue pas?
Parce que le visionnaire n'est plus
vous
là.
Vous comprenez.
On va prendre nos auditeurs. Donc, il faut faire la continuité. En ligne, 085, je rappelle notre numéro de téléphone si vous voulez participer à cette émission, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Blaise Saïdi à Toubou est en ligne depuis Kisangani. Bonjour Blaise.
Oui, merci chérie. Bonjour, bonjour, une fois de plus, bonjour et bonne année, une fois de plus.
Merci.
Oui, la transmission d'une micro-entreprise doit être anticipée et encadrée pour éviter les conflits et les pertes financières, chérie. Une bonne préparation juridique et financière garantie la continuité de l'activité et la stabilité de la famille. Voilà, je dois poser quelques questions à l'invité. La première question, quels sont les documents indispensables pour sécuriser la cession? C'est la première question. La seconde, comment évaluer correctement la valeur réelle de l'entreprise? La troisième question, comment maintenir la réputation et la confiance du marché après la relève? Et pour citer, quels risques fiscaux peuvent apparaître lors de la transmission? Je me limite à ce niveau-là, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Blaise Saïdi à Toubou depuis Kisangani. Monsieur Takizala, que répondez-vous à notre auditeur?
D'abord, en premier lieu, une entreprise doit avoir un statut. Mmh. Et dans le statut, on doit savoir la participation des uns et des autres. Si l'entreprise n'a pas de statut, ça veut dire que le cadre juridique fait problème et tout le monde peut s'improviser. Le monsieur a parlé, je crois, de la transmission, comment écouter les risques qu'il faut
et
éviter.
Et quand on parle de statut juridique, pour vraiment répondre à Blaise Saïdi, quel document? On parle du RCCM, on parle de...
Ça, c'est quand même, RCCM, ce sont des documents qui prouvent que l'entreprise est dans la formalité. Mmh. Hein, RCCM, identification nationale, INP, INPP, tout ça, numéro d'imposition, ça, ce sont des documents qui prouvent que c'est
l'entreprise
qui est dans la formalité.
Et lors de la cession,
lors de la cession, il faut que l'entreprise doit avoir un statut. Mmh. Et dans le statut, c'est là où on doit savoir quel est le rôle de chacun. Est-ce que l'entreprise avait des associés? Mmh. Est-ce que l'entreprise, parce que l'entreprise a aussi des fournisseurs. C'est ce que nous ignorons beaucoup plus. Il faut aussi avoir une comptabilité réelle avec un comptable. Mmh. Parce que trois quarts des entreprises familiales ne fonctionnent pas avec la banque. Mmh. Vous savez, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le phénomène Maboko Bank. Mmh. C'est ça le vrai problème. Et si l'entreprise faisait confusion entre le statut, la forme juridique était sur une entreprise individuelle, mais qui confond d'un côté l'entreprise, d'un côté l'individu. Mmh. Là, il y a beaucoup de risques, parce que s'il n'y avait pas séparation des biens, du propriétaire et de l'entreprise, lorsqu'il n'y a plus le chef d'entreprise, il y a risque de prendre le bien des chefs d'entreprise. Mmh. Et c'est pour cela, il faut un cadre juridique, il faut un avocat, il faut un comptable, il faut un banquier pour que dans la succession, tous ces éléments soient réunis pour qu'on sache la dette, la partie active de l'entreprise, c'est quoi? La partie passive de l'entreprise, c'est quoi? Et pour la réputation de l'entreprise,
et la confiance du marché.
Comment l'entreprise est dirigée? Quelles sont les compétences qui sont à l'intérieur de l'entreprise? Parce que quand on parle d'entreprise, cette confiance doit venir si vous avez des compétences capables à rendre service aux partenaires, l'État lui-même et y compris les fournisseurs et le client. Mais trois quarts de nos entreprises a ces sérieux problèmes. Qui est le directeur d'achat? Qui est le directeur juridique? Qui est le directeur commercial?
En
général, le petites entreprises, il faut avoir vraiment un manager qui fait de la communication, qui fait la partie commerciale, parce qu'il faut un modèle économique, parce que vous n'êtes pas tout seul. C'est ça le vrai problème. Alors, pour que nous puissions pas tomber, parce que ce sont des petits établissements, il faut que l'État, dans son côté, qu'il essaye un peu de créer. C'est pour ça le rôle des, ce qu'on appelle les chambres consulaires, madame. Les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'industrie, chambres d'agriculture, est là pour que nous puissions éviter ces genres de risques. Et puis le tribunal de commerce, pour que les arbitrages puissent être faits du point de vue professionnel. Aujourd'hui, les petits établissements économiques en République démocratique du Congo souffrent parce que l'absence de ces chambres consulaires. Parce qu'au sein de ces chambres consulaires, on peut trouver les aguerris, les entrepreneurs capables à accompagner ces entreprises familiales. Et les consultants qui les donnent conseil, qui regardent, tout ça, ainsi de suite. Il faut que l'État congolais aujourd'hui, s'il veut sauvegarder le petites moyennes entreprises en République démocratique du Congo, il faut remonter les chambres consulaires. Chambre des métiers, chambre d'agriculture, chambre d'industrie, chambre des mines. C'est là où le professionnel sectoriel vont accompagner beaucoup plus. Bon, nous avons des organismes, ainsi de suite, mais il faut quand même faire intervenir parce qu'un poisson est mieux pour vous dire qu'il y a un autre requin à l'intérieur du fleuve Congo. Mais c'est qui aujourd'hui, l'État fait des efforts, mais l'État doit comprendre que pour permettre aux entreprises de se développer entre les quartiers du Congo, il faut utiliser de plus en plus le professionnel sectoriel parce que vous avez une maman qui a une minoterie, par exemple, à Kisensu, qui ne connaît pas, qui n'a pas fait des études de commerce, ni de la comptabilité, tout ça, ainsi de suite. Qui peut l'aider? Et peut-être il n'a même pas des moyens pour avoir un comptable. Mais ce sont les entrepreneurs qui sont innovants.
Et c'est ça la part de l'État.
C'est ça la part de l'État.
S'assurer que l'initiateur du projet a un minimum.
Minimum, voilà. Il faut le compléter. Aujourd'hui, on parle de numérique, madame. Comment ils vont... Il y a des petits établissements, ils n'ont même pas des moyens d'acheter un ordinateur. Mais au sein de la chambre de commerce ou la chambre d'industrie, ils peuvent venir profiter pour comprendre un peu l'ordinateur, comment ça fonctionne, comment ils peuvent vendre sur Facebook, comment ils peuvent
comment
vendre sur
eBay, comment on peut tenir une comment petite tenir comptabilité,
ainsi de suite. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas qu'on reste uniquement dans la partie guichet unique où venez donner votre
fiche d'accès. On vous donne le document alors qu'on ne s'est pas assuré si vous avez
encadrer.
Des notions de comptabilité.
Il ne faut pas uniquement, non, il y a un fonds de garantie, tout ça, ça c'est après. Il faut quand même quelqu'un, chacun ne peut pas, on peut être un chef d'entreprise, mais vous ne savez pas comment faire un business plan. Mais s'il y a des endroits où la personne on peut l'aider, qu'est-ce qu'on appelle un business plan, comment on va démarcher chez le banquier, comment on va faire, il faut mutualiser aussi de temps en temps leur communication. L'entreprise familiale congolaise aujourd'hui a un problème d'image, a un problème de la communication. Même les entreprises d'État, on ne communique pas assez nos entreprises. Coca-Cola gagne assez, mais ils communiquent toujours, madame
les
Jocelyne.
Chiffres, c'est
un tabou ici. C'est un tabou. Et le revenu des chefs d'entreprise, on ne connaît même pas. La fiscalité, on ne sait même pas. Comment voulez-vous que les entreprises soient rationnelles? Comment voulez-vous? C'est ça le vrai problème.
Micro-entreprises et commerces familiaux, comment préparer la relève? C'est notre thème dans cette seconde partie de l'émission Okapi Service. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 085 42 11 547 ou laissez-nous un message, un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. On va prendre un auditeur en ligne, docteur Christian Ekanga Mbole, depuis l'Ituri, depuis Bounia en Ituri. Bonjour, monsieur Christian.
Oui, bonjour, madame. Je suis Moussa Oupande, je vous coûte 5 sur 5.
Merci.
Bon, moi, oui, je félicite le gouvernement de la RDC en passant par les ministres et les présidents de la République. Bon, les entrepreneurs, ils sont beaucoup dans notre pays, mais il n'y a pas un suivi favorable pour cette. Les entrepreneurs là puissent développer leur business aussi ou leur talent. Comme moi aussi, je suis un entrepreneur dans notre ville de Bounia ici. Je vois aucun docteur médical dans notre pays ici qui est plus fort que moi. Mais je vais dire ça en passant par la politique, mais personne ne doit me croire. Mais il doit me croire en passant par les actes, le travail que dans notre ville, il y a plus que de 100 000 personnes qui me connaissent en passant dans mes travaux. Mais je travaille avec beaucoup de difficultés. Qui doit être avec une bonne talent, mais qui n'a pas l'accompagnement. L'accompagnement, ce sont des gouvernements, notre l'État. Il ne suit pas les entrepreneurs dans leurs idées, dans leur développement. Aussi, je veux dire aussi, aussi pour nous, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, d'abord nous-mêmes, aussi, nous devons être d'abord sensibles d'être humbles et aussi d'être aussi connectés par notre gouvernement. Nous devons être humains, mais nous n'avons pas une aussi idéologie politique. Ce sont des idéologies politiques et c'est que ça s'accompagne dans notre biologique. Aussi, à une politique que nous devons faire, c'est une politique gouvernement.
Merci beaucoup, monsieur Christian. Aussi. Merci, monsieur Christian Ekanga Mbole, depuis Bounia en Ituri, monsieur Takizala, monsieur Christian Ekanga Mbole, c'est plein de manque d'accompagnement du gouvernement. Pourtant, y a des actions sur terrain, mais on estime, il y a des programmes, il y a des projets.
Vous savez,
on estime que
dans les États où le mouvement de l'entreprise familiale réside sur le mouvement de l'entreprise dans la globalité, et on faut faire impliquer beaucoup plus ceux qui exercent des gens dans la profession. C'est très très important. Et quand vous mettez même au niveau, il faut mixage entre les institutions étatiques et le professionnel sectoriel. Et cela n'est pas vraiment fait assez. C'est vrai, la politique publique est faite avec des acteurs sectoriels. C'est ce qu'on appelle la politique dans le vrai sens. Et aujourd'hui, nous ne devons pas rester uniquement en phénomène des pailles. Moi, j'appelle ça beaucoup plus un phénomène des pailles en démocratie du Congo. Il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de colloques, mais il faut aller dans la partie pratique.
Dans le concret.
Dans le concret. Il faut des chiffres. Et l'entreprise, le mouvement de l'entreprise est dans plusieurs secteurs de la vie. Nous sommes, il y a des entreprises familiales dans l'agriculture, il y a des entreprises familiales dans le transport, il y a des entreprises, mais ils n'ont pas le même problématique. Ça veut dire que les problématiques, c'est en fonction du surface qu'ils exercent. Et il faut aussi les réussites des entreprises familiales. C'est ça qui va faire aussi aux autres, parce qu'il faut le mentor, mentoring dans l'entrepreneuriat est un élément très très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, moi par exemple, si je suis un entrepreneur, c'est pas parce que j'ai fait des études économiques, parce que j'estime que j'avais un repère. Le repère, c'était le papa d'Okolo. Sanou, que j'ai trouvé que dans sa génération, les gens croyaient beaucoup plus dans la politique. Mais lui, il a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il fallait produire, il fallait avoir des créateurs de richesse, des créateurs d'emplois, des créateurs électriques. Et il a commencé dans le domaine que nous minimisons aujourd'hui, mais il a réussi quand même à comprendre que l'entreprise, même à son époque, que l'entreprise avait un problème de financement. Et que ce que lui générait comme des ressources, il fallait mettre une banque. Ce qu'on a appelé, qui a fait la fierté de la ville de Kinshasa, là-bas. De Kinshasa, équivalent de BNP Paribas au niveau de la France. Ça veut dire que c'est cet repère. Mais quand vous regardez aujourd'hui, il y a une énorme scission, même dans l'entreprise familiale ou l'entreprise dans la globalité, les repères, les modèles. Il faut que nos politiques, ils sont beaucoup, je veux dire, et puis le Mokati du Congo, autour d'eux, ils doivent aussi avoir les gens, même consultants, mais qui sont chefs d'entreprise en exercice. C'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, on a la NADEC, on a FOGEC, on a beaucoup des organismes paritatifs qui doit accompagner l'entreprise, mais l'action de l'entreprise congolaise est faible. Ça, il faut qu'on se voile pas de la face, Madame Jocelyne. Il faut qu'aujourd'hui, les décideurs politiques, ils doivent maintenant aller dans le terrain pratique. Il faut qu'ils associent aussi les icônes de l'entreprise en République démocratique du Congo. Ça veut dire que ceux qui exercent, quand ils arrivent, on sait directement que lui, il est dans tel domaine, son entreprise s'appelle comme ça, ainsi de suite. Je vais dire aujourd'hui, par exemple, le problème de gouvernance ou des compétences. Nous, chez l'entreprise que je dirige aujourd'hui, il y a une couverture décapitalisation. Nous avons un projet, un joli projet. On voit que le transport et le démocratie du Congo, c'est un problème. Mais nous cherchons les autres entrepreneurs ou les investisseurs à nous rejoindre avec ce projet de sac trans. Parce que j'estime que
Est-ce que les entrepreneurs s'y font suffisamment confiance? C'est là aussi le problème.
Mais le monde de l'entreprise sans confiance n'existe pas. Ça veut dire que c'est pour ça que vous voyez que l'entreprise congolaise patine.
On peut ouvrir
patine.
Les parts.
Le part. Et nous, chez SAG, on a ouvert le part. Même l'État peut venir. Parce que l'État, on ne dit pas parce que je suis INSS et que je dois rester à part. INSS aussi doit acheter de capitalisation auprès des entreprises venant du secteur privé. C'est comme ça qu'on va se développer. Okay. Mais si on laisse, parce que le problème de l'entreprise en démocratie du Congo, comme c'est Mathieu Taguizala qui a créé, c'est son truc. Non, mais moi quand je crée...
La République démocratique. On va prendre un auditeur en ligne, Platini Mbombo, qui nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour Platini. Platini, si vous êtes en ligne, essayez d'ouvrir votre micro. Peut-être qu'il est fermé, peut-être que vous parlez et que votre micro reste fermé. Est-ce que vous êtes en ligne? On vous écoute, Platini Mbombo. On vous rappelle Monsieur Platini Mbombo. Monsieur Taguizala, parlant des familles, entreprises, est-ce que les conflits au sein des familles n'affectent pas aussi la continuité des activités?
Le conflit, et vous allez voir que les familles qui avaient de capital dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, ils ont perdu le capital parce que les rivalités familiaux, du point de vue socio-économique, ça veut dire que trois quarts des héritiers, ils sont uniquement le pays d'actif qui est resté est conflictuel. Vous allez voir que l'aîné va chercher à gagner la part plus que les cadets, et ainsi de suite, et ces conflits. Et puis, le notion de notaire, nous devons vraiment faire monter le notaire et le huissier. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que on va prendre encore un membre de la famille, on dit c'est lui le liquidateur, et lui, il va, si c'est une famille monoparentale ou en polygamie, automatiquement, ils vont pas, ils chercheront toujours. Il y a des belles fleurons de l'entreprise familiale, la démocratie du Congo, qui est à l'intérieur du parti, qui nous échappe aujourd'hui parce que les héritiers n'arrivent pas à faire la continuité, parce que le conflit familial a fait qu'il faut céder et que chacun trouve un peu le gain pour survivre.
On y revient, on tente d'avoir à nouveau Platini Mbombo qui nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour Platini.
Bonjour madame, je salue l'invité.
Bonjour monsieur Platini.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, merci beaucoup.
Oui.
Merci madame, bien que je suis très à la fin, mais je ne serai pas trop kilométrique. J'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention l'invité, comme il a vraiment évoqué. Bon, moi je ne serai pas trop kilométrique, mais j'ai des témoignages ici dans la ville de Mbandaka où je fais un petit allusion. Parce qu'on dit nos gouvernements congolais, donc la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelle le RLF. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, madame, même dans nos différents milieux, et aussi dans nos différentes villes, même là où nous sommes, il s'impose un sérieux problème. C'est tout ce qu'on appelle les micro-entreprises, et aussi ce qu'on appelle les familiales. Comment séparer les relèves? Ça pose un sérieux problème. Moi, je vous relève l'information claire ici dans la ville de Mbandaka, où un entrepreneur lui-même a créé son entreprise, bien sûr, mais à la fin du compte, il a engagé beaucoup de gens au sein de même entreprise, mais le gouvernement, l'État congolais, arrive et poussé avec beaucoup ce qu'on appelle les frais à payer au niveau de l'État congolais. Donc les frais, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Et maintenant, à la fin du compte, la propriété lui-même dit que les revenus, je ne ressors pas beaucoup, mais j'ai beaucoup gaspillé sur le plan qu'on appelle le taxe. Parce que là, on dit toujours en français, pour des taux d'impôt, qui est-il l'impôt, lui-même, il a fermé, il y a aussi des gens qui sont restés chômeurs jusqu'au du confrère. Alors, là, si l'invité peut nous répondre aussi à la question, est-ce qu'il n'y a pas si possible que les entreprises, ou soit les personnes des moindres classes, si tu vas le dire, la basse classe, mais la moindre classe, qui est à peine arrivée de commencer à faire quelque chose sur le milieu public, ou soit, un petit commerce, la prépise, la pépinarée, et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, il n'y a pas une loi qui permettre à faire que son entreprise pousse quand même à avancer et dépasse et commence maintenant à payer les frais, ou soit les taxes au niveau de l'État congolais. Donc, je voudrais avoir le questionnement autour de ça. Si la proposition peut se passer, mais ça peut se passer comment? Qui sont les docteurs? Parce qu'il a évité de payer le tercier autour de ça. Voilà un peu ce que je voudrais contribuer à soutenir ma coupe d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Platini Mbombo, monsieur Takizala.
Oui, le monsieur Platini de côté de Mbandaka. Mbandaka, avant, c'était quand même un coin où il y avait beaucoup d'entreprises familiales, surtout dans l'agriculture, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pire comme avant. Il a raison, je crois qu'il y a un problème aussi de la fiscalité de l'entreprise en République démocratique du Congo. Il faut quand même revoir beaucoup de choses par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport au chiffre d'affaires, parce que on ignore aussi du côté de la législation que les entreprises familiales souffrent d'un vrai problème de la concurrence déloyale avec l'informel qui est dans tous nos coins des riz. Mais malheureusement, comme ils sont quand même répertoriés comme des unités de production formelles, et ils doivent payer. Mais il faut quand même rendre compte, il faut que l'État ne soit pas qu'uniquement celui qui cherche et qu'on le paye, il faut que l'État permet aussi à ces entreprises d'avoir du travail. Parce que trois quarts de ces entreprises n'ont pas de chiffre d'affaires, mais malheureusement, ils doivent faire face à des frais fixes. Il y a aussi un problème de foncier de l'entreprise. Les petites moyennes entreprises, vous savez, le problème de foncier, Madame Jocelyne, dans notre pays, c'est un vrai problème. La vie est extrêmement chère, les entreprises souffrent pour louer, même un bureau, un local. Dans nos mairies, dans nos villes, il n'y a pas même de pépinières d'entreprises. Là où quand même, avec un logement modeste pour permettre quand même aux entreprises petites pour se développer en incubation, ainsi de suite. C'est ça, par exemple à Kinshasa, quelqu'un qui démarre, déjà le loyer est le moins cher, et de combien, surtout c'est ici ça. Dans l'espace des Kalina.
Et une garantie.
Donc garantie, tout ça.
Et, mois, hein, pour
voilà,
une activité
donc,
commerciale.
Vous comprenez, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État de ce côté est encore aveugle. Il est vraiment aveugle. Il n'y a pas vraiment un grand accompagnement pour le foncier, pour l'hébergement des entreprises, de petites moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Il faut quand même, moi j'ai toujours dit, on voit le tour là des RTNC, qui chôme là, il fallait faire même un pépinière d'entreprises de la ville de Kinshasa, aux alentours des stades, nos stades qui soient 20 mains, qui soit le stade des martyrs, qui reste là uniquement pour acquérir le match de football. Il fallait créer des petits bureaux à l'intérieur pour permettre quand même à les petites moyennes entreprises d'avoir des bureaux avec une connexion d'internet, à des loyers quand même subventionnés par l'État, parce qu'il faut accompagner l'entreprise familiale ou des petites moyennes entreprises dans la ville de Kinshasa. Il faut permettre aussi que les organismes paritatiques qui récupèrent les impôts ou les taxes soient aussi les acheteurs de ces entreprises, parce que ces entreprises n'ont pas de travail. C'est, mais on veut collecter. Non, il faut d'abord créer des ressources, parce qu'au sein des INSS, des GDA, la douane, OCC, mais ils consomment. Ils consomment où? Il faut consommer au sein de ces petites moyennes entreprises pour que ces entreprises puissent être quand même capables de faire face à des frais fixes. Le problème de l'énergie, et aujourd'hui, dans le secteur agricole, l'énergie pose problème. Et
dans tous les secteurs, comment? D'ailleurs, de la
voilà, dans tous les secteurs. Vous comprenez? Donc, à un moment, il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. On parle de l'entreprise du point de vue festin, forum, les gens en costume. Mais non, il faut accompagner l'entreprise. Aujourd'hui, c'est qui? Les petites moyennes entreprises sont dans la mécanique, souffrent dans tous les riz, on répare. Même les dirigeants eux-mêmes appellent les mécaniciens dans leur riz pour réparer dans leur domicile. Mais maintenant, celui qui est l'entreprise familiale, où il va trouver le travail, madame Jocelyne? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même pallier les choses. Il y a aussi un problème des ressources humaines. C'est-à-dire l'implication de travailleurs. En République démocratique du Congo, les petites moyennes entreprises souffrent de ça. Le travailleur, quand il arrive, il dit, ah, ça, c'est l'entreprise de maman Jocelyne, et je c'est pas à moi, je fournis pas assez d'efforts. Mais à la fin du mois, on voit que l'individu puisse le rémunérer. Tantôt, ils prennent le client de l'entreprise pour aller faire dans la rue. Il faut quand même condamner tout ça. Il faut que l'État ouvre quand même les yeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui met dans le transport, avec cet informel-là qui est dans tout le coin des rues. Comment il va faire face?
Il va émerger.
Comment il va émerger? C'est okay. Ça le vrai problème.
On prend Ruffin Bonceau, qui nous appelle depuis Likasi, dans le Haut-Katanga. Bonjour, Ruffin Bonceau.
Bonjour, Madame Jocelyne. Ainsi, j'aimerais dire idem bonjour à l'invité du jour.
Bonjour, messieurs.
Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un grand problème. Qui est lequel? Parce que nous sommes en train de voir que l'État congolais est en train de sensibiliser jour et nuit pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Hein, en matière là des impôts et autres là les taxes, mais nous constatons très bien que cet argent là ne revient pas encore aux gens qui fonctionnent avec des petites et moyennes entreprises telles que nous les voyons parfois en Zambie lorsque nous y partons là-bas l'État, quand quelqu'un est en train de chercher comment créer quelque chose en termes d'entreprise, vous verrez que la main de l'État est tombée sur cette personne-là, tout en lui donnant le goût d'évoluer avec son entreprise, parce qu'il va engager ses frères zambiens, par exemple. Mais ici, chez nous, au Congo, nous voyons seulement les poches en train vraiment de gonfler, oui, en termes de gens qui sont en train de gagner quelque chose auprès du peuple congolais, en termes de taxes. Mais lorsque s'il s'agit de faire évoluer, de donner un coup de main à nos confrères congolais entrepreneurs, c'est vraiment compliqué. L'État ne fait rien. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de constater qu'il y a même les problèmes là de Kuluna et autres. Et maintenant, si l'État investissait convenablement, par exemple dans le domaine de l'agriculture, vous verrez que même les colonnes ne vont pas exister, telles qu'elles sont en train de les observer, ce phénomène aujourd'hui. Tout Congolais est difficile. L'État doit changer vraiment son système de.
Merci
on ne peut pas jouer avec l'argent de l'État en désordre, oui, oui. C'est ce que j'aimerais vraiment intervenir. Merci beaucoup, madame la journaliste.
Merci, Ruffin. Bonsoir, monsieur Takizala. Le rôle de l'État, encore une fois, on
reste. Oui, oui. L'État, c'est un ensemble. C'est la plupart des organismes étatiques, les entreprises étatiques, les administrations, les communes, les municipalités et nous-mêmes aussi, les habitants de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que nous devons savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein. Quand on parle de l'entreprise, évitons les slogans, hein, parce qu'il y a beaucoup de slogans en République démocratique du Congo. Prenons par exemple le secteur de l'agriculture. Tout le monde parle, hein, chaque gouvernement qui arrive en République démocratique du Congo, l'agriculture, je me rappelle dans mon enfance, c'est une priorité de Marshall Mobutu. Ça veut dire que le vrai problème, mais quand vous allez dans d'autres sessions, vous allez voir que l'agriculture, comment on accompagne un agriculteur? Il faut une coopérative agricole, il faut une banque agricole, il faut les transformateurs dans le pays. Il faut que, par exemple, dans les écoles, hein, le cantine, et celui qui fait, par exemple, la culture maraîchère, peut vendre dans le cantine de l'école, comme ça, il va avoir des ressources. Prenons par exemple ceux qui sont dans l'industrie de l'automobile, ceux qui vendent des pièces de rechange, qui vendent par exemple la réparation et les entretiens. L'État lui-même doit être le commandeur. Il achète auprès de ces organismes étatiques. Prenons aujourd'hui le contrôle technique. On dit contrôle technique. Mais pourquoi il n'y a pas assez de véhicules de l'État dans ces centres. Hein, vous comprenez, lui-même, il doit jouer ce rôle. L'État, on va dire, le Parlement, le Sénat, ainsi de suite. Tous ces gens-là doivent s'impliquer pour permettre à ces entreprises familiales d'avoir du cash flow et pour faire créer l'adrénaline économique. Pourquoi on va laisser aujourd'hui que tout le monde va aller acheter le véhicule? Non, il faut organiser les choses. Ceux qui veulent acheter le véhicule doivent passer auprès des professionnels qui vendent véhicules. Ceux qui sont fournisseurs doivent aller auprès de ces professionnels, ces entreprises qui sont immatriculées et mettre le véhicule là-bas. On ne peut pas laisser tout le monde dans le coin des rivantes. C'est une concurrence, c'est une désordre. Et qui crée pas de la valeur. Alors, si on veut avancer, on doit commencer par ça. Parce qu'une maison commence par une fondation. Mais aujourd'hui, être un chef d'entreprise familiale, l'État vous prend comme, au lieu de vous prendre comme un partenaire, mais on est avec des slogans. Non. Il faut que ces entreprises familiales puissent avoir aussi du travail. Il faut aussi que l'Office national des demandeurs d'emploi forme quand même le travailleur de la République démocratique du Congo, qu'on vole pas au travail, que le travail faut respecter l'heure et qu'il faut pas prendre les informations de travail pour amener en dehors, il faut pas voler le client de l'entreprise, ainsi de suite. Il faut quand même des petites moyennes entreprises qu'on regarde d'abord, est-ce qu'ils voient un chiffre d'affaires, qu'est-ce qui bloque qu'ils puissent pas avoir un chiffre d'affaires, les compléter, est-ce que le financement, comment on peut faire, et donc c'est ça, parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, trois quarts des petites moyennes entreprises, madame, je suis un chef d'entreprise, ils ont pas de carnet de commandes, et mais l'État, comment il va avancer? Comment il va avancer? Il faut quand même permettre.
On va chuter, monsieur Takizala, trois conseils essentiels pour que une entreprise familiale survive à la première génération.
J'ai dit aujourd'hui, conseil principal, le dirigeant d'entreprise doit séparer le patrimoine familial et les revenus qu'il gagne et le revenu de l'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, s'il n'a pas toutes les compétences, il doit chercher à se mettre en synergie. Moi, aujourd'hui, sur mes pages, tout ça, je mets tout ça. Et une entreprise sans comptabilité, c'est pas une entreprise. Une entreprise sans communication, il y a pas, c'est pas une entreprise. Une entreprise sans partenaire, c'est pas une entreprise. Une entreprise qui a pas le modèle économique, c'est pas une entreprise. Une entreprise qui n'a pas, même pas un logo, parce qu'une entreprise du 21e siècle, il faut quand même un emblème, une mascotte, qui dit, voilà, Okapi, on sait que c'est la bête mythique congolaise, Okapi. C'est-à-dire qu'il faut une mascotte. Une entreprise, c'est aussi le réseau. Il faut quand même que les gens vous connaissent, il faut que vous puissiez tenir compte.
Initier les enfants.
Initier l'enfant qui veut devenir comme son papa, il doit commencer comme tout le monde, il doit prendre ça comme une gravité, mais pas la facilité, parce que ce qu'on est en train de faire en République démocratique du Congo, c'est l'industrie de la facilité. C'est dans tous les domaines, hein. C'est pas uniquement que dans l'entreprise et surtout dans la politique, ça devient aussi encore l'industrie de la facilité. Il faut initier le politicien, ceux qui veulent devenir politicien, mais que ça doit être un entonnoir d'espoir.
Merci Mathieu Takizala, merci d'être venu dans ce studio de Radio Okapi et merci à vous chers auditeurs d'avoir participé à notre émission à travers vos interventions. Okapi Service prend fin. On se retrouve très prochainement, très bientôt. Place à présent aux informations. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix et bon anniversaire à nous tous. 24 ans.